Monsieur le Président de la République, c'est un plaisir de vous recevoir au sein de l'Assemblée nationale portugaise. Vous êtes là pour la remise du prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale portugaise, Madame la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Madame la présidente du comité exécutif du Centre Nord-Sud, Madame la présidente du tribunal administratif, Mesdames et messieurs les députés, vice-présidents, Mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus en cette enceinte. Et pour cette cérémonie, c'est très important pour l'Assemblée nationale portugaise de pouvoir vous souhaiter la bienvenue et vous associer à la remise de ce prix annuel du Conseil de l'Europe qui félicite, qui récompense deux institutions ou deux personnalités qui se distinguent par leurs agissements pour la paix, la liberté et les droits humains. Après ces quelques mots, je vais donner la parole à la présidente du comité exécutif du Centre Nord-Sud, Madame l'ambassadeur Francesca Milleri Vertier. Monsieur le Président de la République portugaise, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République du Portugal, Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Vice-président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les parlementaires de l'Assemblée de la République portugaise, distingués lauréats du prix Nord-Sud, Directeur exécutif du Centre Nord-Sud, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je suis très honorée de participer pour la première fois à cette cérémonie en tant que présidente du comité exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Je suis très reconnaissante aux autorités portugaises pour le soutien indéfectible accordé au Centre Nord-Sud et pour nous accueillir une fois de plus pour cette cérémonie du prix Nord-Sud dans une enceinte aussi prestigieuse. Merci beaucoup. Le prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe est un symbole de reconnaissance pour les individus et les organisations dont les efforts exceptionnels ont contribué à la promotion des valeurs universelles du Conseil de l'Europe, les droits humains, la démocratie et l'état de droit. Et il honore ceux qui sont particulièrement dévoués à l'amélioration de la société au sein d'un pays, au-delà des frontières, et nos lauréats d'aujourd'hui l'illustrent parfaitement. Dans un contexte de troubles géopolitiques et d'insécurité climatique croissante, le prix 2022 reconnaît le travail primordial accompli par l'Association des villes ukrainiennes et du groupe d'experts international sur l'évolution du climat, le GIEC. Avant le début de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, l'Association des villes ukrainiennes, qui a été créée il y a plus de 30 ans, était déjà une force motrice dans la réforme de la décentralisation et dans la construction de la démocratie locale dans le pays. Depuis l'agression en cours, les villes ukrainiennes ont été non seulement un exemple de résilience, de courage et de bravoure, mais aussi la preuve que la solidarité commence au niveau local. Aujourd'hui, l'Association des villes ukrainiennes continue de fournir aux municipalités des services de base, une aide humanitaire et un soutien aux familles, tout en entamant un travail de longue haleine en vue de la restauration. Elle collabore également avec les autorités civiles et militaires pour veiller à ce que la législation soit revue et soit entièrement alignée avec la charte du Conseil de l'Europe sur la démocratie. Il est important de défendre les valeurs démocratiques, y compris en ces temps difficiles. Des témoignages comme celui de Vadim Boychenko illustrent les difficultés rencontrées par les villes ukrainiennes et leurs habitants. Aujourd'hui, ce prix félicite les efforts de cette association en ces temps difficiles et nous partageons un message unique de solidarité et de paix à votre égard et à l'égard de tous ceux qui continuent à être victimes de cette agression perpétuée par la justice. Notre deuxième lauréat, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a été, grâce à ses recherches rigoureuses, à l'avant-garde de l'élaboration de notre compréhension de l'avenir de notre planète. Et les conclusions de son rapport, le sixième rapport d'évaluation, donnent à réfléchir. Il est clair que nous voyons sans équivoque le problème du changement climatique qui touche toutes les parties du monde. Nous voyons que ceux qui ont le moins été à l'origine des problèmes sont ceux qui en subissent les causes. Le rapport met également l'accent sur les pertes et dommages que nous subissons et continuerons à subir si nous n'agissons pas rapidement. Le changement climatique affecte toutes les régions et nous voyons les sécheresses, les inondations, les éboulements de terrain, les ouragans qui touchent le nord et le sud et qui rendent extrêmement difficile aux communautés de s'adapter et de faire face et de se reconstruire, surtout dans les zones touchées par les conflits. Prendre les mesures importantes à l'heure actuelle dans les pays et de façon transfrontalière est très très important pour que nous puissions survivre. Et donc aujourd'hui, l'attribution du prix Nord-Sud au GIEC par votre intermédiaire, monsieur le professeur, est un rappel du pouvoir de transformation de la science et une reconnaissance du dévouement du GIEC à la recherche de la vérité, à la diffusion des connaissances et à la promotion d'un avenir durable et équitable pour tous. Les ramifications de la guerre d'agression contre l'Ukraine ou les conséquences du changement climatique nous concernent tous, mais pas de la même manière. Il est essentiel que nous nous unissions en dépit de nos différences, et c'est ce qui rend ce prix aussi pertinent. Le Centre Nord-Sud a une longue expérience et s'est engagé à combler ses brèches en rendant l'interdépendance plus consciente par le biais de la solidarité. Nous avons récemment adopté de nouvelles stratégies. Nous avons l'intention d'intensifier nos efforts pour garantir une plus grande implication, une plus grande coopération avec les régions voisines pour le partage des normes, pour le partage des principes du Conseil de l'Europe au-delà des frontières. Nous célébrons ce jour avec vous, avec cette remise des prix, mais nous sommes conscients de notre responsabilité partagée en tant que représentants d'organisations internationales, de gouvernements, de parlements, d'autorités locales et régionales, de la société civile et en dernière instance d'individus. Mesdames et messieurs, c'est l'ex-président du Portugal, Mario Soares, également lauréat du prix Nord-Sud, qui a dit un jour « N'est vaincu que celui qui renonce au combat ». Alors, merci beaucoup de ne pas avoir abandonné la lutte. Merci de nous inspirer tous les jours. Merci de faire en sorte que nous luttions pour un avenir meilleur. Je vous remercie de votre attention.
Muito obrigado.
Merci beaucoup. Et je donne maintenant la parole à Marina Prekovic, secrétaire générale du Conseil de l'Europe.
President.
Monsieur le Président de la République portugaise, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République portugaise, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les parlementaires de l'Assemblée de la République portugaise, distingués lauréats du prix Nord-Sud, Madame la Présidente du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, Directeur exécutif du Centre Nord-Sud, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici en cette occasion heureuse. Et je souhaiterais commencer par remercier les autorités portugaises d'accueillir le Centre Nord-Sud, un centre qui fait tant de bien à la prise de conscience dans le monde de l'interdépendance à l'échelle de la planète pour assurer la solidarité internationale, pour promouvoir et protéger les droits humains, la démocratie et l'état de droit, à la fois au sein des frontières européennes et à l'extérieur de celles-ci, entre les pays qui partagent des valeurs communes. Je souhaiterais également remercier les autorités de leur soutien à l'égard du prix Nord-Sud. Ces lauréats ont excellé dans la mise en pratique de ces valeurs en apportant une différence positive dans la vie des citoyens et à leur tour, en inspirant d'autres, en montrant ce qui peut être fait. Aujourd'hui, nous avons deux autres lauréats qui rejoignent les rangs des lauréats du prix Nord-Sud. Et de tout cœur, je les félicite. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est l'autorité suprême la plus reconnue dans son domaine. Le GIEC fournit aux gouvernements du monde entier des faits, des recherches scientifiques que les autorités sont libres d'utiliser pour élaborer des politiques fondées sur des données probantes, afin qu'ils puissent agir contre le changement climatique et prévenir les atteintes aux droits humains. Le GIEC est notre étoile polaire, alors que nous tentons de sortir de la crise climatique actuelle. Et en cette période de l'année, il est tout à fait approprié de dire que les sages suivent le GIEC. Et je suis heureux que son président, Jim Skea, soit présent aujourd'hui pour recevoir le prix Nord-Sud au nom de toute son équipe, une équipe magnifique. J'aimerais également saluer l'Association des villes ukrainiennes, qui mérite tout autant notre respect. Depuis plus de 30 ans, cette association défend les intérêts des autorités locales, la décentralisation du pouvoir et la construction de la démocratie à partir du niveau local, en français.
C'est difficile pour l'Ukraine que la valeur et la résilience de l'Association des villes ukrainiennes sont particulièrement visibles. Son rôle dans le renforcement du cadre juridique de l'Ukraine en matière de l'autonomie locale, dans l'aide à l'intégration des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et dans la modification du code électoral pour que ces personnes puissent voter aux élections locales. Toutes ces mesures ont porté leurs fruits. L'Association des villes ukrainiennes a également collaboré avec l'administration militaire et civile pour veiller à ce que les lois sur les collectivités locales répondent aux normes énoncées dans la charte de l'autonomie locale, même en ces temps de guerre. Elle est sensibilisée le public au sort des dirigeants ukrainiens des collectivités locales enlevées par l'armée russe. Elle a également joué un rôle de premier plan en veillant à ce que l'aide humanitaire parvienne à ceux qui en ont le plus besoin, notamment par le biais de la plateforme Cities for Cities, soutenue par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Les maires d'Ukraine ont accompli un travail remarquable pour ceux qu'ils représentent et pour l'ensemble du pays pendant le conflit en cours. Et nous sommes honorés de la présence de vous, Monsieur le maire du Mariupol, Vadim Boychenko, qui recevra le prix Nord-Sud pour l'Association des villes ukrainiennes. L'impact du changement climatique et son évolution potentielle et la guerre brutale, illégale et continue contre l'Ukraine sont deux crises très différentes. Pourtant, chacune d'entre elles conduit à la destruction de maisons et des communautés, au déplacement de populations et à la mort de personnes innocentes. Chacune d'entre elles porte atteinte aux droits humains et appelle chacun d'entre nous à faire ce qu'il peut faire pour aider. En mai, les dirigeants européens se sont réunis à Reykjavik pour le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe. La déclaration de Reykjavik, sur laquelle ils se sont mis d'accord, promet des actions sur de nombreuses questions urgentes, notamment Le progrès accompli dans la mise en place de nouveaux instruments juridiques relatifs aux droits humains et l'environnement. Et le soutien à notre cher État membre, l'Ukraine, et en particulier grâce à un nouveau registre des dommages qui enregistrera les pertes, les préjudices subis sur le terrain. Premier pas nécessaire vers un mécanisme international d'indemnisation qui jouera son rôle en tenant la Russie pour responsable de ces crimes. L'Europe et le reste du monde, nord et sud, sont confrontés à toute une série de défis aujourd'hui. Mais ceux-ci sont les plus importants d'entre eux. Il est juste que nous agissions et que nous reconnaissions et remercions ceux qui sont en première ligne. Le GIEC et l'Association des villes ukrainiennes sont donc les dignes lauréats du prix Nord-Sud de cette année. Je renouvelle toutes mes félicitations à nouveau lauréats. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Merci beaucoup. Et je donne maintenant la parole à Madame la Présidente de la délégation de l'Assemblée de la République et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, vice-présidente et députée Edith Estrella, qui représente le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, Madame la Secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Monsieur le Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, Madame la Présidente des questions parlementaires, Mesdames et Messieurs ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les lauréats, Excellences. En mon nom et au nom du président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Timmy Cox, je salue et félicite les lauréats de 2022, l'Association des villes ukrainiennes et le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il y a un an, nous avons rendu hommage au mécanisme COVAX qui a permis de sauver des vies pendant la pandémie, et à la militante afghane Zarifa Ghaffari, qui s'est distinguée dans la lutte pour la liberté et l'égalité. Depuis, le monde a beaucoup changé. Nous savons que l'agenda des médias est volatile. Nous voulions oublier la pandémie, mais nous ne voulons pas oublier la lutte des femmes afghanes et des femmes iraniennes. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les souffrances des femmes et des enfants ukrainiens, israéliens et palestiniens. Les enfants et les femmes ont le droit de vivre sans violence et en liberté, et de voir leurs droits fondamentaux protégés. De mon siège, je regarde mon pays, l'Europe, le monde, et je n'aime pas du tout ce que je vois. Je vois une guerre au Moyen-Orient qui s'ajoute à la guerre en Ukraine. Et de l'une et de l'autre, nous parviennent des images de destruction et de massacre. Partout dans le monde, je vois la désinformation, l'égoïsme, les inégalités qui alimentent la haine, le populisme, l'extrême droite. Et dans ce contexte de danger et d'incertitude, je suis d'autant plus inquiète de voir une stabilité politique et sociale rare et enviable sacrifiée sur l'autel de puissances ignorantes. Nous sommes sortis de la pandémie et avons repris le rythme rapide, égoïste et consumériste qui était le nôtre auparavant. Contrairement aux attentes de certains, le « moi » n'est pas devenu le « nous », bien au contraire. dans de nombreuses régions du monde, n'importe quel prétexte est utilisé pour mettre en péril l'état de droit et rabaisser les droits humains. La guerre en Ukraine a renforcé l'importance du multilatéralisme, de l'unité d'action et de la solidarité. La solidarité entre les membres d'une famille, les voisins, les amis, la solidarité entre les villes, les régions, les pays. Notre civilisation est essentiellement urbaine. C'est pourquoi parler de la ville, c'est parler de la vie des gens. Il y a une relation d'interdépendance. L'origine même des mots les identifie comme indissociables. Au sens étymologique et au sens plus restrictif du terme, le citoyen est celui qui vit dans une ville. Et Baudelaire disait que la forme d'une ville change plus vite que le cœur d'un mortel. En temps normal, les villes se transfigurent, perdent ou prennent forme. En temps de guerre, la destruction d'une ville ne détruit pas simplement ce qui a été construit, le patrimoine, mais détruit également les familles, les affects et les vies. L'association des villes ukrainiennes mène une action sans ménager ses efforts pour assurer l'accueil et l'intégration des personnes déplacées et pour défendre les valeurs démocratiques. Et cela a été déterminant dans la victoire d'Eros, dans le combat titanesque contre Thanatos. Excellence, des années et des années d'agressions environnementales ont conduit à la surchauffe de la planète, au changement climatique et à la multiplication des catastrophes naturelles. Les climatologues affirment que l'année 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et ce qui se passe cette année n'est qu'un avant-goût du cauchemar qui nous attend. Et ce qui nous attend, c'est une montée du niveau des mers, telle que les îles et les villes côtières seront submergées, provoquant des millions de réfugiés climatiques. Ce qui nous attend, c'est une augmentation des conflits armés dus au changement climatique. Ce qui nous attend, c'est une augmentation de la mortalité humaine et l'extinction de nombreuses espèces animales et végétales. Et les experts disent même que la crise climatique menace tous les progrès réalisés depuis la Deuxième Guerre mondiale. On peut se plaindre des chauves-souris, des moustiques, des rats ou des pangolins, mais tout commence par la déforestation, comme le disait le chercheur bolivien Carlos Torello, qui étudie la relation entre l'environnement et les pathologies émergentes. Il conclut que tous les changements que nous imposons à la planète auront un impact sur notre santé. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a joué un rôle extraordinaire. Il a été salué par le secrétaire général des Nations Unies et l'ancien premier ministre portugais lors de l'ouverture de la COP28. António Guterres n'a pas baissé les bras et a réussi à faire approuver l'abandon progressif des combustibles fossiles. Et comme lui, je veux croire que la déclaration approuvée représente un tournant décisif dans la lutte contre le changement climatique. En tant que présidente du réseau des députés de référence pour un environnement sain au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je suis heureuse de voir que mon pays est un exemple à suivre. En 2016, le Portugal a été le premier pays au monde à se fixer l'objectif de la neutralité carbone d'ici 2050. Un objectif qui avait déjà été avancé à 2045. Il a été également le premier pays de l'Union européenne à présenter un plan national de l'énergie et du climat pour la période 2021-2030. Nous avons réduit les émissions de gaz à effet de serre de façon considérable. Nous avons accéléré la transition juste et équitable vers les énergies renouvelables. Et en 2021, le Portugal a fermé ses centrales à charbon. Et il a déjà avancé l'objectif de 80% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité de 2030 à 2026. L'adoption de la loi européenne sur le climat pendant la présidence portugaise du Conseil de l'Europe et l'adoption de la loi fondamentale sur le climat par le Parlement portugais en 2021 démontrent l'ambition du Portugal dans ce combat. Les ressources naturelles sont limitées. La nature ne peut pas tout supporter. Et tout comme Richard III à la fin de la pièce de Shakespeare du même nom, était prêt à échanger son royaume contre un cheval, nous pouvons aller jusqu'à vouloir échanger les biens matériels dont nous ne disposons pas actuellement contre de l'eau potable et de l'air pur. Il nous faut plus d'ambition, plus de financement, plus de responsabilité. Les bonnes intentions et les jolis discours ne sauvent pas des vies. La nature apporte des solutions à de nombreux problèmes, mais la nature prend soin de nous uniquement si nous prenons soin d'elle. Et de plus, comme le disait le grand chef indien, la terre ne nous appartient pas, nous l'avons empruntée à nos enfants. Nous avons donc l'obligation de la défendre et de la préserver. Je vous remercie de votre attention.
Merci infiniment. Nous allons maintenant remettre le prix aux deux lauréats, respectivement le président de la mairie de Mariupol, Vadim Boychenko, en représentation de l'Association des villes ukrainiennes, ainsi qu'au président Jimsky, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. J'inviterai Monsieur le Président de la République à remettre le prix et je vous propose de descendre en faisant attention, avec prudence, pour remettre les prix. Son Excellence le Président de la République et Son Excellence le Président de l'Assemblée de la République remettent le prix Nord-Sud 2022 au maire de Mariupol et président de l'Association des villes ukrainiennes, Vadim Boychenko. Son Excellence le Président de la République et Son Excellence le Président de l'Assemblée de la République remettent le prix Nord-Sud 2022 du Conseil de l'Europe au président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, M. Jimsky. Pour le discours de remerciement, je passerai maintenant la parole à M. le maire de Mariupol et représentant de l'Association des villes ukrainiennes, M. Vadim Boychenko plutôt.
Доброго дня, шановні пані та панове.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, Mesdames, Messieurs les députés et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et honneur que d'être ici. Et je suis bien conscient qu'aujourd'hui, c'est une grosse responsabilité qui m'incombe en recevant ce prix. Je reçois non pas ce prix pour moi, mais c'est un prix qui est décerné au peuple ukrainien qui se bat pour son indépendance. Aujourd'hui, c'est une grande responsabilité commune qui est la nôtre, car nos communautés ressentent cette guerre sanguinaire. Au nom de l'Ukraine, de toutes les villes de l'Ukraine, de toutes les personnes en Ukraine qui sévissent cette guerre, j'aimerais vous remercier à vous, remercier le Conseil de l'Europe, remercier la communauté européenne et tous nos partenaires qui nous soutiennent actuellement dans notre droit de nous battre pour notre indépendance, pour la liberté commune qui est la nôtre et pour les valeurs que nous partageons tous dans nos parlements, les valeurs de démocratie, de paix et les valeurs de la vie. Aujourd'hui, j'aimerais aussi remercier les partenaires qui reconnaissent le gros travail mené par notre association. Et aujourd'hui, en tant que maire d'une des sections de l'association des villes ukrainiennes, toutes les villes qui ont été détruites, libérées, et je représente, si vous représentez plus de 80% des Ukrainiens. Et la lutte se poursuit encore aujourd'hui. Nous nous battons pour la dignité, pour les valeurs de notre communauté européenne. Aujourd'hui et jour après jour, nous recevons des nouvelles sur nos téléphones pour annoncer des raids qui sont lancés contre notre pays, contre nos villes. Lorsque l'alarme sonne sur nos téléphones, nous nous réveillons parce que nous savons qu'une attaque est imminente. Des missiles sont lancés sur l'Ukraine et tous les jours, nos communautés sentent ce que veut dire cette guerre, une guerre injuste, inéquitable. Et toutes nos villes finissent par sentir qu'elles n'existent pas du tout. Par exemple, la ville détruite de Mariupol veut dire des vies détruites, ou encore Barmour, Vulnavar, ou d'autres villes, et combien de communautés qui sont soumises à ce genre d'action et qui demandent que justice leur soit faite et qui vous demande à vous en tant que communauté européenne et internationale de ne pas arrêter votre soutien. Et j'aimerais partager avec vous une réflexion aujourd'hui quant à notre objectif commun. J'aimerais vous demander, vous implorer, ne cessez pas d'appuyer notre lutte pour les valeurs qui sont les nôtres, des valeurs sur lesquelles nous avons investi et qui correspondent à nos valeurs futures. La dignité, la loi, la liberté. N'arrêtez pas sur le plan diplomatique, sur le plan militaire et à tous les autres niveaux parce que l'Ukraine combat, lutte, se bat en payant le plus gros prix. Des femmes, des hommes, des enfants, toutes générations confondues se battent pour l'Ukraine. L'Ukraine se bat aussi en développant une vision post-bellique, post-guerre. Nous devons penser également à notre renaissance. C'est un objectif commun. Tous, nous avons vu une interview récente prononcée par le président Zelensky, le commandant en chef et le président Biden. Et une question a été posée par un journaliste ukrainien. Et la question que nous devons sentir et à laquelle nous devons tous, tout un chacun, essayer de répondre. L'Ukraine, dans cette guerre terrible, ne doit pas perdre, elle doit gagner. Ça a l'air d'être la même chose, mais la différence est énorme. Et je peux vous dire avec certitude que grâce à notre président, à nos forces armées, nous n'avons pas encore perdu. Mais la question pour notre victoire commune, c'est-à-dire la victoire de la démocratie, pour surmonter cette noirceur qu'est la Fédération russe, dépend de notre responsabilité commune. C'est une question à laquelle nous devons tous essayer de trouver une réponse. Et est-ce que nous sommes en train de gagner ou est-ce que nous ne sommes tout simplement pas en train de perdre? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas attendre que la guerre s'achève. Avec l'association des villes ukrainiennes, nous sommes en train de nous préparer à l'après-conflit. C'est vraiment quelque chose de très difficile, de complexe. Et tout un tas de gros chantiers s'ouvrent à nous dans cet esprit. Mais il faut que nous puissions travailler conjointement avec vous pour que nous puissions former une véritable expertise et vision pour l'Ukraine. À quoi ressemblera l'Ukraine après la victoire? Que deviendra l'Ukraine dans ce monde mondialisé? Nous devons trouver une réponse à cela. Nous voulons faire partie de cette grande famille européenne. Et en même temps, se pose la question, quand s'achèvera la guerre? Quand viendra la victoire? Peut-être demain, si aujourd'hui l'Ukraine rejoint l'OTAN. Ceci a l'air d'être simple, mais à vrai dire, c'est un véritable défi que nous nous devons tous de relever. C'est la véritable question qui se pose. Aujourd'hui, Mariupol est un exemple. Aujourd'hui, nous avons rassemblé ce qui est le plus important, la communauté qui a été évacuée. Ceci semblait impossible, mais c'est vrai, les personnes craignent, sont détruites, endommagées. Elles ont dû quitter leur territoire à la recherche de quelque chose de justice. Mais les Ukrainiens continuent de se battre pour Mariupol. Et il y a même la devise « I am Mariupol », »,« Je suis Mariupol ». Beaucoup de personnes travaillent d'arrache-pied avec passion pour cette intégration et se relever. Mais aussi faut-il rendre l'espoir aux communautés de Mariupol et toutes les autres villes qui ont été détruites. La récupération de Mariupol, entre autres villes, est essentielle. C'est pourquoi il faut rassembler des forces et des efforts et faire renaître toutes ces villes, dont Mariupol, dont l'importance de l'appui apporté par des experts. Nous savons bien que d'autres cas de figure se sont produits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rotterdam, Bruxelles ou d'autres villes. Il faut que nous joignions des efforts et que nous soyons attentifs à toutes ces conséquences, aux répercussions, y compris du point de vue environnemental. Quelque chose qui se produit actuellement en Ukraine et qui n'a pas été suffisamment étudié. Mais c'est quelque chose qui se produit encore et c'est pourquoi nous avons besoin de vous pour que nous soyons ensemble pour le bien de l'Ukraine, pour sa récupération, pour que l'Ukraine puisse retrouver sa dignité, sa vie, et il y a ce qui lui revient. Ce qui est noir et qui s'est abattu sur l'Ukraine, à savoir l'agression de la Fédération russe, doit se terminer parce que l'Ukraine est un rayon de lumière, de soleil, et la lumière prévaut toujours. La démocratie vaincra, l'Europe, sans le moindre doute, vaincra la guerre. Et donc le monde devra vaincre. Ensemble, avec vous, nous vaincrons.
Дякую за увагу і слава Україні!
Merci infiniment. Gloire soit faite à l'Ukraine. Je vous remercie. La parole maintenant au président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, M. Jimski.
Mind the stairs, please.
Faites attention aux marches, s'il vous plaît.
Your Excellency, President.
Excellence, Monsieur le Président de la République portugaise, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République du Portugal, Madame la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, Madame la Présidente de la délégation portugaise à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Madame l'ambassadrice Camilleri Wettigen, membre du corps diplomatique, distingués députés, mesdames et messieurs, distingués coloréens, représentant l'Association des villes ukrainiennes. Je m'adresse à vous aujourd'hui au nom du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC. En tant que président du GIEC, c'est un grand privilège professionnel et un honneur personnel de recevoir le prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe au nom de milliers de scientifiques qui ont contribué aux travaux du GIEC au cours des 35 dernières années. Ils ont généreusement offert leur expertise et leur temps pour fournir des évaluations scientifiques, y compris nos collègues ukrainiens virtuellement, même dans des circonstances très difficiles. Pour fournir les évaluations scientifiques les plus importantes et les plus fiables ayant trait au climat de notre planète, en définissant des voies d'adaptation et des moyens d'atténuer le changement climatique, nos rapports d'évaluation présentent des résultats scientifiques mis à jour et solides. Ils peuvent doter les décideurs politiques de tous les pays et à tous les échelons de façonner les politiques et des actions en matière de climat. Pour nous, le prix décerné aujourd'hui est une reconnaissance importante de cette entreprise collective et véritablement mondiale qui rassemble des scientifiques des pays en développement et des pays à développer pour évaluer conjointement des données scientifiques relatives au changement climatique. Nous sommes reconnaissants au jury de l'avoir reconnu et nous vous en remercions. Au fond, cette reconnaissance hors pair fait suite à la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui vient de s'achever il y a 24 heures à peine. Là, les rapports du dernier cycle d'évaluation du GIEC ont directement alimenté le bilan mondial. Il s'agit de la première évaluation d'une importance capitale dans le cadre de l'accord de Paris en 2015 quant au progrès accompli par les pays dans la lutte contre le changement climatique. Au fond, c'est tout ce qui a trait au carburant fossile puise directement dans le travail mené par le GIEC. Et ceci a permis de déterminer l'issue des négociations entre 198 États membres. La voix de la science est claire, son message est sans équivoque. Le changement climatique est causé par les activités humaines. Il est généralisé, rapide et s'intensifie. Les changements dont nous sommes témoins sont d'une ampleur sans précédent depuis des siècles et des milliers d'années. Toutes les régions du monde sont touchées et certains impacts, comme l'élévation continuelle du niveau des mers, sont irréversibles. Les tendances actuelles en matière d'émissions de gaz à effet de serre et en matière d'action climatique sont incompatibles avec un monde durable et équitable. Plus d'un siècle de combustion de combustibles fossiles, de déforestation et d'utilisation insoutenable des ressources a entraîné un réchauffement à hauteur de 1,1 degré Celsius de la planète dans son ensemble. En conséquence, nous assistons avec plus d'ampleur et plus souvent à des températures extrêmes ainsi qu'à des phénomènes météorologiques plus intenses et extrêmes. Le changement climatique constitue une menace imminente pour la santé de notre planète, pour nos moyens de subsistance, pour notre bien-être et met en péril l'existence des autres espèces qui partagent ce monde avec nous. Il s'agit d'une menace existentielle pour les petits États insulaires et les zones côtières de basse altitude. Une réponse urgente s'impose donc. Les pertes et les dommages causés par le changement climatique sont désormais une réalité et font partie de notre avenir. Les données scientifiques montrent aussi clairement que les personnes les plus vulnérables aux effets du changement climatique contribuent et ont contribué le moins au réchauffement. La vie et les moyens de subsistance de plus de 3 milliards de personnes vivant dans de vastes régions d'Afrique, d'Asie, du Sud, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, sur de petites îles et dans l'Arctique sont menacées. Comme on peut s'en douter, il s'agit surtout de pays du Sud global. Compte tenu de l'interdépendance mondiale et des aspects de solidarité, il y a Nord-Sud souligné par le prix que nous recevons aujourd'hui. Ce point est particulièrement pertinent. Seules des réductions profondes, rapides et durables des émissions des gaz à effet de serre dans tous les secteurs permettront de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré centigrade au cours de ce siècle. Dans nos derniers rapports, nous avons montré que le seul moyen de maintenir cet objectif à notre portée consiste à réduire les émissions de près de moitié d'ici à 2030. Il ne reste que 6 ans, et d'atteindre les émissions nettes de CO2 nulles au milieu du siècle. Mais la science peut aussi livrer un message d'espoir. Les mesures que nous prenons aujourd'hui feront la différence sur des centaines et même des milliers d'années. Nous ne pouvons pas être paralysés par la complexité et l'ampleur du défi. Nous avons la possibilité de déterminer l'avenir pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Les prochaines années seront décisives, et les moyens d'améliorer nos chances de réussite existent. Nous disposons des technologies, des outils et du savoir-faire nécessaires pour limiter le réchauffement de la planète. Il est encourageant de constater que de plus en plus de pays prennent des mesures en faveur du climat. Certains pays et certaines villes ont même déjà montré ce qu'il était possible de faire et enregistré des réductions durables de leurs émissions. Ils ont commencé à infléchir la courbe des émissions, même si le pic des émissions mondiales n'a pas encore été atteint. Cependant, tous ces efforts, élaboration et mise en œuvre de politiques, législation, renforcement des institutions et des capacités, il y a financement, adoption de sources d'énergie renouvelables et de nouvelles technologies doivent être généralisés et étendus à l'échelle mondiale. Nous vivons dans des sociétés diverses, dans un monde diversifié, et nous avons des responsabilités et des possibilités communes, mais différenciées, de provoquer ces changements. Certains peuvent faire énormément, tandis que d'autres auront besoin d'un soutien pour les aider à gérer le changement. Le changement transformateur ou les changements transformateurs ont plus de chances de réussir lorsque la confiance règne, que tout le monde travaille ensemble pour mettre la priorité sur la réduction des risques et que les avantages et les charges sont partagés équitablement. Cela ne sera possible que si l'action climatique est véritablement et fondamentalement juste et inclusive. Mesdames et messieurs, la vision du GIEC pour le restant de cette décennie cruciale est claire en termes d'action climatique. Nous utiliserons les meilleures connaissances scientifiques disponibles pour rédiger des rapports ciblés et pertinents et fournir aux décideurs politiques des informations opportunes et exploitables. Et pour atteindre ces objectifs, nous ne ménageons aucun effort pour que le GIEC soit véritablement inclusif, diversifié et représentatif. Alors que nous entamons un nouveau cycle d'évaluation, le 7e, nous nous engageons à assurer un équilibre au niveau des opportunités, un équilibre au niveau de la reconnaissance. Cela veut dire veiller à ce que les auteurs dans nos rangs soient représentatifs aussi bien entre régions qu'en leur sein. Cela veut dire assurer un équilibre entre les pays développés et les pays en développement. La manière dont nous menons nos activités d'évaluation peut contribuer à promouvoir le renforcement des capacités universitaires et scientifiques dans les régions et nations sous-représentées. Il s'agit également de parvenir à un équilibre entre hommes et femmes. Nous continuerons d'encourager les gouvernements à nommer davantage de femmes scientifiques. Enfin, nous redoublons d'efforts pour intégrer et formaliser les rôles des scientifiques en début de carrière des pays en développement en tant que scientifiques de la section du GIEC. Nous favorisons les possibilités de créer un réseau de scientifiques en début de carrière en faisant appel à la cohorte actuelle de boursiers du GIEC. Excellences, mesdames et messieurs, la science est et demeurera le socle des efforts déployés pour lutter contre le changement climatique. Pour tous les scientifiques du GIEC, les points focaux nationaux et le personnel, le prix d'aujourd'hui est une reconnaissance et un encouragement important et nous ne pouvons vous en être que reconnaissants. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale portugaise, Madame la Vice-présidente de l'Assemblée nationale portugaise et représentante du président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Madame la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Madame la présidente du comité exécutif du Centre Nord-Sud, chers lauréats, Mesdames et Messieurs représentants des groupes parlementaires, députés, Madame la représentante des questions parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences. Le moment que nous vivons aujourd'hui est unique et il est particulier pour plusieurs raisons. Et pour commencer, parce qu'il se tient dans cette maison, la maison de la démocratie portugaise. Et c'est pourquoi je commençais à saluer avec effusion le président de l'Assemblée nationale portugaise et par son intermédiaire l'Assemblée portugaise elle-même. Et par votre intermédiaire, je salue également la présidence que vous avez menée au niveau interne et externe. De fait, nous sommes ici, dans ce lieu, un lieu qui compte, mais au-delà de ce lieu, nous sommes ici face à une institution qui nous a convoqués, le Conseil de l'Europe, une institution avec un passé, un présent et un avenir. Le passé, un Conseil de l'Europe né après les affres de la Seconde Guerre mondiale pour construire la paix, pour construire l'état de droit, pour réaffirmer les droits humains, la liberté, la démocratie, la vie pacifique au sein de l'Europe et entre l'Europe et le reste du monde. Un Conseil de l'Europe avec un passé, mais également avec un présent. Et par votre intermédiaire, j'aimerais saluer la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Vous exercez vos fonctions par des temps très difficiles, marqués par la pandémie, marqués par la guerre en Ukraine, marqués par l'évolution récente que l'on voit au Moyen-Orient, marqués par un climat de distance plus que de compréhension à l'égard des objectifs, des valeurs et des principes que défend le Conseil de l'Europe. Mais le Conseil d'Europe a un avenir. Le Conseil de l'Europe a un futur et vous incarnez le futur, pas simplement le passé, ni même le présent, mais également l'avenir. Le Conseil de l'Europe représente la continuité des efforts parce que l'Europe a un futur, parce que l'Europe est au cœur des pouvoirs dans le monde. Mais l'Europe n'est centrale que parce qu'elle représente la démocratie, la liberté, l'état de droit. Et c'est pour cette raison que le Conseil de l'Europe a un rôle à jouer dans la reconstruction de ce qui sera l'avenir que nous appelons de nos voeux. Outre cet appel du Conseil de l'Europe, nous recevons également l'appel du Centre Nord-Sud. Un centre Nord-Sud qui est né pour concrétiser une évidence, mais qui ne l'était pas au moment de sa création, à savoir ouvrir l'Europe au monde. Un monde vraisemblablement proche, mais en réalité distant. Un monde ouvert par le biais de l'empathie, de la compréhension, du dialogue, en commençant par les voisins, la Méditerranée, puis en allant au-delà, à l'Orient, au Sud, et ensuite en allant vers d'autres continents, les continents proches et les continents les plus lointains, ceux qui représentent l'autre Sud, un Sud tout aussi important que le premier Sud dans le dialogue avec le Nord. Alors on pourrait penser que ce dialogue était daté, que la mission avait été accomplie, une mission historique. Certains avaient même déclaré que le moment de la création du centre ne correspondait plus aux exigences de l'actualité. Eh bien, les événements géopolitiques n'ont fait que confirmer l'importance de ce dialogue Nord-Sud. L'exigence de comprendre ce qui se passe dans le Nord, en Europe, aux Amériques, Amérique du Nord, ce qui se passe sur d'autres continents, ce qui se passe sur d'autres sous-continents dans le Sud. Comprendre que la guerre en Ukraine n'est pas une guerre régionale ou locale, c'est une guerre mondiale. Les défis du climat, les défis de la durabilité ne sont des défis qui ne pourront être surmontés que s'ils ont à la base le dialogue Nord-Sud. Et c'est pourquoi nous, Portugais, saluons ce nouveau plan stratégique mis en place par le Centre Nord-Sud. L'élargissement du Nord à d'autres Nords, l'élargissement du Sud à d'autres Suds divers, variés, nombreux, pour que nous puissions porter plus loin cette mission qui reste inachevée. Et venons-en maintenant au prix. Ce prix qui est un symbole. Le symbole de ces relations entre le Nord et le Sud. Mais le prix de cette année est un prix très vivant, avec des caractéristiques qui nous émeuvent. Le prix accordé à l'Association des villes ukrainiennes. Vous l'avez reçu. C'est le président de Mariupol qui a reçu ce prix au nom de l'association. Et il nous a dit que cette guerre, sa guerre et notre guerre, ne peut pas être perdue. qu'elle ne peut pas être perdue, que l'on ne peut pas échanger des valeurs et des principes contre du temps. Et ne pas perdre cette guerre, cela signifie ne pas perdre non plus la reconstruction. La reconstruction commence à la base. Et qui d'autre que les autorités locales savent ce que signifie la reconstruction d'un pays détruit ? Commencer par les besoins fondamentaux, accueillir les populations déplacées, créer des commissions économiques et sociales. Et au-delà de cela, organiser un pouvoir structuré, organisé au niveau local pour pouvoir traverser les différentes étapes de la guerre et passer à l'après-guerre. Qui serait mieux placé que cette nouvelle génération d'Ukrainiens, aidée des alliés, pour concrétiser ce qui est essentiel pour ne pas perdre cette guerre? Une guerre ne se gagne pas simplement par les voies militaires, elle se gagne également par le biais de l'homme, par le social, la culture, l'économie. Et c'est la raison pour laquelle ce prix illustre la solidarité, notre solidarité du Nord et du Sud à l'égard de combattants dans une lutte qui ne peut pas être perdue. Et il y a une autre guerre que nous ne pouvons pas perdre, c'est celle qui justifie l'attribution du deuxième prix, à savoir la guerre contre le changement climatique. Alors on pourra nous opposer que cette première guerre a des visages concrets dans les victimes du quotidien. Eh bien la deuxième guerre, elle aussi, a des visages concrets au quotidien. Les victimes de toutes ces catastrophes qui frappent notre planète, ces victimes ne sont pas toujours immédiates. Et pourtant, elles restent inévitables et inexorables. La première guerre, on la voit tous les jours. Le président de l'Assemblée nationale a reçu une délégation de l'Assemblée ukrainienne. Il a pu témoigner lui-même que cette guerre se fait au quotidien. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, le Premier ministre en a attesté, moi-même j'ai pu en attester. Mais l'autre guerre, celle qui nous conduit à lutter contre les changements climatiques, eh bien, c'est une guerre qui très souvent est oubliée dans l'urgence du moment. Et pourtant, c'est une guerre à moyen et à long terme. Et par conséquent, nous ne pouvons pas l'oublier. Le prix remis au GIEC est un prix remis à la connaissance, à la pédagogie, mais également à l'influence sur les décisions. Parce que dans les deux cas, la décision est urgente. Il est urgent de reconstruire l'Ukraine. Le monde nous impose de reconstruire urgemment l'Ukraine. Il est urgent de reconstruire le monde face aux nombreuses dévastations provoquées par le changement climatique. Et nous voyons l'alliance de ces deux urgences dans la remise des prix cette année. Nous voyons l'alliance de ces deux urgences dans tous les appels qui sont lancés par toutes les générations, mais surtout les générations les plus jeunes. Ceux qui sont allés en Ukraine, ceux qui ont vécu cette guerre sur le terrain, savent combien c'est également une guerre de générations, le vieux monde contre le nouveau monde. La guerre climatique est également une guerre de génération. C'est également la guerre qui oppose le vieux monde au nouveau monde. un vieux monde qui estime qu'il n'est pas urgent de mener cette guerre, qui estime que cette guerre peut être menée plus tard, elle peut être reportée. Un vieux monde qui estime que la guerre en Ukraine et les changements climatiques ne sont pas des guerres qui nous touchent au quotidien. Or, il n'y a pas un jour à perdre. Le Portugal est fier d'accueillir cette cérémonie parce que nous avons compris dès la première heure, combien cette guerre exigeait notre réaction urgente, combien il fallait y mettre fin. Nous avons été pionniers au sein de l'Union européenne et au-delà de l'Union européenne. Nous avons été pionniers dans l'action climatique, dans cette lutte pour la transition énergétique, dans la recherche d'énergie plus propre, dans la sensibilité pour fixer des objectifs clairs, courageux, immédiats. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, mobilisés à l'égard de vos guerres. Et ce prix est un symbole de votre engagement, de notre engagement commun, votre engagement et notre engagement. Nous devons penser à ce qui nous unit. Ce n'est pas simplement l'Europe, ce n'est pas simplement le dialogue Nord-Sud, c'est l'affirmation de valeurs essentielles pour l'humanité. Je vous remercie.
Merci beaucoup. La séance est levée. Je vous remercie de votre présence.